Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le représentant du bureau de OCHA à Genève et directeur de la division de la coordination des opérations humanitaires a bouclé ce vendredi sa visite de travail dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Vous l'entendrez dans quelques instants. Le président de l'association des commerçants opérant à l'étranger s'insurge contre les bénéficiaires de l'exonération de l'importation de la farine des maïs. Car selon lui, la population du Haut-Katanga ne sent pas encore les effets de cette mesure, étant donné que la farine des maïs est toujours vendue à plus cher. En Ituri, après plusieurs mois d'accalmie, l'insécurité refait surface dans le territoire des Djougou, marqué par les attaques entre les groupes armés. La ville de Bounia n'est pas aussi épargnée par notamment des cas de tuerie. Qu'est-ce qui explique cela et comment y faire face? Nous en parlons avec notre invité, le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama. D'abord cette information. À Kananga, au Kasaï central, trois agents de la radio communautaire Nsanga sont morts hier alors qu'ils étaient sur un pylône qu'ils érigeaient. Le drame s'est déroulé l'après-midi, non loin du centre d'impôt synthétique de la DGI, en plein centre-ville. Deux personnes sont mortes sur le coup et la troisième a succombé à ses blessures à l'hôpital provincial. Ces pylônes étaient en installation quand une partie, qu'on soudait encore, s'est écroulée avec les personnes qui y étaient montées. Les trois corps sont gardés à la morgue de l'hôpital provincial. Mesdames et messieurs, bonjour. Le représentant du bureau des OCHA à Genève et directeur de la division de la coordination des opérations humanitaires a bouclé ce vendredi sa visite de travail dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Arrivé à Goma le mardi 12 mars, Ramesh Rajasingam a conféré avec les gouverneurs du Nord Kivu les acteurs humanitaires avant de visiter quelques sites des déplacés. Les jeudi, il s'est rendu à Bukavu au Sud Kivu. Là, il a échangé avec les responsables de la MONUSCO. Objectif, harmoniser les dispositions pratiques à mettre en place pour garantir la continuité des opérations humanitaires en toute sécurité et dans le respect des principes humanitaires après le retrait de la mission onusienne de cette partie de la République démocratique du Congo. Afin de quitter Goma, Ramesh Rajasingam a donné ses impressions au micro de Chris Mukand.
I must say that the situation here is really worrying.
À Goma, j'ai observé une situation très inquiétante, en particulier pour ce quart de personnes déplacées. Goma et encerclé par les groupes armés dans une situation qui nous inquiète terriblement. Avant même les nouvelles arrivées, il y avait déjà 500 000 de personnes déplacées, particulièrement vulnérables. Dans ces circonstances, on a discuté avec le gouverneur, on a eu un très bon échange. Nous avons discuté protection des civils notamment et s'assurer de l'accès à la terre pour les personnes déplacées. Aussi, j'ai pu engager avec les populations déplacées et les mots ne suffisent pas pour décrire les violences et les traumatismes qu'elles ont subis et leurs besoins. Les femmes auxquelles j'ai parlé sont effrayées au quotidien pour leurs filles et pour les risques de violence basés sur le genre, ces violences sexuelles. Dans ce contexte, on a besoin d'un soutien accru des bailleurs de fonds et des donateurs pour financer le plan de réponse humanitaire 2024.
Et comme si tout le malheur que vivent les déplacés ne suffisait pas, la météo n'a pas épargné certains cas cette semaine. Une tornade est passée jeudi dans la soirée par le camp des déplacés de Boulengo au quartier Lac Vert à l'ouest de la ville de Goma. Le bilan provisoire fait état de deux morts, une femme et un enfant, et de plus de 20 blessés. Une délégation du gouvernement provincial, conduite par le gouverneur à l'intérim, le général-major Peter Chirimwami, s'est rendue ce vendredi matin sur le site pour assister les victimes. Témoignage des victimes dans ce reportage de Rosalie Zawadi.
Amani Innocent était un jeune père. Il a eu son fils aîné en déplacement, mais à la suite de la tornade de jeudi, sa joie de père lui a été vite arrachée.
Hier, il y avait une forte pluie, accompagnée de vents violents. Le mur d'une clôture voisine est tombé sur mon abri. Tu vois mon bébé âgé de 1 mois et 2 semaines. Je viens de passer dans ce camp 1 année et 2 mois. J'ai eu mon enfant ici et il meurt ici même. C'était un garçon, mon premier enfant.
Chez M. Moïre Gassoré, c'est un arbre tombé sur son abri qui a coûté la vie à sa femme. Un incident qu'il regrette beaucoup car, selon lui, le président du site avait demandé avant aux propriétaires des arbres dans ces sites qui reçoivent les déplacés de les couper. Pour lui, si cette recommandation avait été prise en compte, sa femme serait en vie. D'autres déplacés dont les abris ont été emportés par les vents tentaient de les reconstruire ce vendredi. Le gouverneur de province est à d'aller visiter les déplacés avec une assistance, mais leurs besoins sont énormes. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps à Bunia en Ituri, les activités économiques ont été paralysées hier matin au centre-ville et dans la partie sud de la ville. Conséquence de la colère des manifestants contre la mort la veille d'un conducteur de taxi-moto par les bandits armés au quartier Soukissa 2. Selon le président de la communauté Ira à laquelle appartenait le défunt, ces décès portent à 8 le nombre de personnes tuées par balle dans cette entité depuis le début de cette année. Il demande aux autorités de l'état de siège de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour sa part, le gouverneur des provinces appelle la population au calme et à faire confiance aux services de sécurité. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Des jeunes en colère à provenance de la brigade de Ksukisade au quartier Oro, Lenkabo, Dele et de Yambiaya sur des motos ont envahi le matin des grandes artères des centres-villes de Bunia. Ils manifestaient contre l'assassinat d'un jeune taximène moto la nuit dernière par des bandits armés, ce qui a occasionné la fermeture de plusieurs maisons des commerces en ville. Rigen Kambale, président de la communauté Ira et membre de la famille du défunt, exige aux autorités rien que la sécurité.
Le rôle de régal de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous pensons que nous méritons le même titre de protection.
Devant la presse vendredi, le gouverneur des provinces rassure que des enquêtes sont en cours pour mettre la main sur ceux qui se livrent aux tueries des civils innocents à Bunia et ses environs. Le lieutenant général Johnny Luboya Kachama.
Dès que nous avons remarqué qu'il y a eu des assassinats, nous avons renforcé les patrouilles. Donc en plus de la police que nous avons, la police militaire qui est là. Nous avions mis aussi la GR qui fait aussi des patrouilles là où on observe qu'il y a beaucoup de banditisme.
La police est intervenue avec des tirs de sommation pour disperser les manifestants en vue d'éviter tout débordement. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Kasaï central, le vice-premier ministre et ministre de la Défense a présidé ce vendredi la prestation de serment de la 35e promotion ordinaire et la 18e de la session extraordinaire à l'Académie militaire de Kananga. Au total, 416 nouveaux officiers ont porté le grade des sous-lieutenants des FARDC lors de cette cérémonie. François Kadima était sur place, il nous en parle.
361 nouveaux officiers de la 18e session spéciale et 55 de la promotion ordinaire ont prêté serment après avoir passé 9 mois d'études pour le premier groupe et 3 ans pour le deuxième. Ils ont été tous admis au grade de sous-lieutenant lors de cette cérémonie. À l'occasion, le général Christian Chiwewe a rappelé aux finalistes de ces deux promotions à un engagement ferme pour servir le pays jusqu'au sacrifice suprême. Le chef d'état-major de FARDC.
Aujourd'hui, que vous avez fini votre formation pour amorcer la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compromission et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu autant que dans toute autre circonstance et résister jusqu'au sacrifice suprême.
Le vice-premier ministre de la Défense a rappelé aux officiers les défis qui les attendent de contribuer à la pacification du pays qui fait face à la guerre dans la partie est. Jean-Pierre Bemba.
Le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend.
Notons que dans ces deux promotions, il y avait 5 finalistes venus de la République centrafricaine. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Comme annoncé au sommaire, le président de l'association des commerçants opérant à l'étranger s'insurge contre les bénéficiaires de l'exonération à l'importation de la farine de maïs. Edouard Soumaïli indique que la population de Lubumbashi et d'autres villes du Haut-Katanga ne sent pas encore les effets de cette mesure, car la farine de maïs est toujours vendue à plus cher. Un sac de 25 kilos revient à environ 50 000 francs congolais, voire plus, alors que le prix devrait déjà être revu à la baisse. Edouard Soumaïli s'est exprimé ainsi ce vendredi au micro de Jean Gando.
L'exonération des farines de maïs et graines de maïs a été accordée par le gouvernement national. Le ministre des Finances nous a accordé 12 mois. Mais nous ne voulons pas que cette exonération soit bénéficiée par les individus, alors que c'est la population qui doit bénéficier de cette exonération. L'exonération, on dit, c'est taux zéro. Certains services respectent, mais il n'y a que les déclarants qui demandent au-delà de $500. Pourquoi ? Nous sommes venus avec une structure de prix qui peut soulager tant soit peu la population. un sac la farine de maïs à $13 à Kasumbalesa et $14.50 à Lubumbashi. Mais celui qui ne respecte pas, il n'a qu'à laisser, parce que nous voulons que le prix soit quand même en baisse. En ce moment-là, la population peut prendre de l'exonération avec beaucoup de considérations. Mais actuellement, ce sont des individus qui s'enrichissent au détriment de la population. Si ça ne change pas, il faut les sanctionner.
Nous allons nous rassurer que le contrat renégocié ce jeudi entre la RDC et la Sicomines marche selon l'esprit de la convention. Déclaration hier du directeur général de l'agence de pilotage et de suivi des conventions entre le secteur public et privé. Freddy Chiembo, lors d'une conférence de presse ici à Kinshasa, ajoutait que son agence veillera à ce que les infrastructures de qualité soient construites en RDC. Freddy Chiembo est au micro de Paul Matendo.
Les gens ne respectent que ce qu'on inspecte. S'il n'y a pas inspection, il n'y a pas respect. Et la violation que vous tolérez devient le nouveau standard que vous acceptez. Et nous allons nous rassurer ici à l'agence que cette convention marche selon l'esprit de la convention. C'est quoi l'esprit de la convention? On a dit qu'il faut que le projet minier soit un moyen pour construire les infrastructures de la République démocratique du Congo. Eh bien, les infrastructures de la République démocratique du Congo doivent être construite. Et pas n'importe quelles infrastructures, nous allons insister sur la qualité, sur la vérité des prix et nous allons suivre. Mais je peux vous rassurer que notre travail commence aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons suivre de manière très rigoureuse. L'idée ici, c'est que on ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents.
Dans les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique, notez que la faculté des sciences agronomiques a signé hier au rectorat de l'université de Kinshasa un protocole d'accord avec l'université d'État de Dakota du Sud. Cet accord de partenariat a pour but de promouvoir les recherches dans les secteurs des sciences géospatiales, notamment en agronomie et en foresterie, d'après John Stoff, représentant du recteur de l'université d'État de Dakota du Sud. Tati Mapuku nous propose un extrait de sa déclaration interprété par le professeur Jean-Robert Bouangoy, enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIN.
Monsieur John est ici pour représenter l'Université de l'État de Dakota du Sud pour signer un accord de collaboration entre l'Université de l'État de Dakota du Sud et l'Université de Kinshasa dans le cadre de la formation des étudiants et la recherche avec ses deux collègues de département de géographie et des sciences géospatiales. On va avoir des étudiants pour apprendre l'anglais à l'Université de l'État de Dakota du Sud et aussi pour les sciences géospatiales. Nous sommes très très heureux d'être ici chez vous en République démocratique du Congo dans le cadre de cet accord. Ce que nous pouvons demander au ministre de l'Enseignement supérieur, c'est de pouvoir nous soutenir dans le cadre de cette collaboration, non seulement avec l'Université de Kinshasa, mais aussi avec d'autres universités du pays.
Parlons du processus électoral. Plusieurs candidats invalidés après les élections de décembre dernier tentent d'introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour pousser cette dernière à corriger ce qu'ils qualifient d'erreur matérielle. C'est le cas du regroupement 2A-TDC pour l'invalidation de l'un de ses candidats. Mais ce dernier a été par erreur mis pour le compte du regroupement AAC-PALOU. Mais pour 2A-TDC, cette erreur peut s'expliquer par le fait que le candidat qui aurait dû être invalidé, c'est celui de AAC-PALOU Donatien Bitini Talabau. D'où 2A-TDC recommande à la Cour constitutionnelle d'invalider ces derniers et de réhabiliter leur candidat. Réagissant à cette demande, AAC-PALOU indique que la Cour constitutionnelle ne devrait pas invalider Donatien Bitini Talabau qui a obtenu plus de voix que tous les candidats et qui n'a pas été cité par la Cour constitutionnelle parmi les invalidés. On écoute l'avocat du regroupement AAC-PALOU, maître John Koulenfouka, qui est aussi cadre du PALOU. Il est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Nous avons suivi avec stupéfaction l'intervention du regroupement politique des ATDC qui s'insurge contre l'arrêt entrepris par la Cour constitutionnelle pour la circonscription électorale de Boulungou en estimant, mais à tort, que c'est l'élu du regroupement politique AAC-PALOU, l'honorable Bitini Talabau Donatien, qui était visé au procès du jugement. Mais ce qu'il a oublié et ce qu'il n'a pas dit à l'opinion publique est que cette requête visait la CENI et donc lorsque c'est la CENI qui est attaquée, c'est connu de tout juriste, c'est tous les élus de la circonscription électorale qui sont concernés. De même, il n'appartient pas à un requérant de choisir qui il veut invalider. La Cour, en sa qualité de juge de la sincérité des scrutins, se réfère souverainement à l'ordre d'arrivée des listes dans la circonscription électorale et à la règle du plus fort reste pour confirmer ou invalider un candidat. Nous estimons que c'est de bon droit que la Cour constitutionnelle a confirmé définitivement élu l'honorable Bitini Talabao du regroupement politique AAC Palou pour la circonscription électorale de Boulogne.
Je suis de l'UDPS, je suis prêt pour apporter des solutions innovantes pour la ville de Kinshasa. C'est en ces termes que Deo Kasongo, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est présenté devant la presse le jeudi avec son colistier Guy Richard Malongo, candidat vice-gouverneur. Deo Kasongo a souligné que son idée majeure est de fédérer tous les efforts des Kinois pour la réhabilitation et la modernisation de la ville-province de Kinshasa, si jamais il était élu. Deo Kasongo l'a dit au micro de Paul Matendo.
Naturellement, je suis membre de l'UDPS de père et de mère. C'est une partie de mon histoire, une partie de moi que personne ne pourra m'arracher. Et le seul parti dans lequel j'ai adhéré, c'est donc l'UDPS depuis ma jeunesse. J'ai aujourd'hui une idée, une ambition et des solutions pour ma ville, notre ville, Kinshasa, notre mère nourricière qui nous a tant donné, que nous avons abandonné à l'oubli. Alors, l'idée, c'est de trouver les voies pour concorder nos efforts. Mais la plus-value que j'apporte, c'est l'expertise que j'ai. C'est la capacité de joindre aux problèmes de la ville des solutions distinguées. Et ces solutions, j'ai eu le temps, croyez-moi, j'ai eu le temps de les penser. Je suis aujourd'hui un homme mobilisé. Et le slogan « Je suis prêt » n'est pas inventé de toutes pièces. Alors le point de presse d'aujourd'hui, c'est une conférence pour les certitudes partagées. La population kinoise ne peut pas rater l'occasion que le destin a préparée pour elle.
Actualité internationale.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a fait ce vendredi après-midi à Dakar sa première apparition publique depuis des mois après sa sortie de prison la veille. Il a été accueilli par des centaines de sympathisants à son arrivée près d'un hôtel de la capitale où il devait s'exprimer devant la presse avec son second, Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle du 24 mars.
L'invité.
L'insécurité refait surface dans le territoire des Djougou après plusieurs mois d'accalmie à Ituri. Des attaques entre les groupes armés causant mort d'hommes sont enregistrées ces derniers jours dans plusieurs entités. Même situation dans la ville de Bounia avec des cas de meurtre enregistrés. Le dernier cas en date est celui d'un taximen moto la nuit de jeudi à vendredi, ce qui est à la base de la paralysie des activités commerciales au centre-ville de Bounia. Qu'est-ce qui explique cette situation? Nous en parlons avec le lieutenant général Johnny Luboy Nkashama, gouverneur des provinces de l'Ituri. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Lieutenant général Johnny Luboy Nkashama, bonjour.
Bonjour.
Après plusieurs mois d'accalmie observée dans les territoires du Djougou, il s'observe une montée de l'insécurité dans cette entité. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation?
Vous avez raison, il y avait vraiment une accalmie. C'est depuis une année qu'on avait cette accalmie. Il y a eu des mécontents qui sont arrivés ici après les élections avec un langage de violence. Tout d'un coup, là, nous avons commencé à suivre, voilà, qu'il y a eu tuerie en Bogui. On a tué 19 personnes en Bogui. Et vous connaissez très bien ce qui se passe ici. C'est quand certains actes sont posés dans une communauté, l'autre communauté réagit. À Tali aussi, on a encore enterré les gens vivants. Et puis encore, il y a eu une autre personne qui a été tuée. Et puis eux aussi sont revenus tuer une maman à l'hôpital de Drodro et même venir piller cet hôpital-là. Voilà. Donc, nous qui avons fait 3 ans ici à Ituri, nous avons compris que les Ituriens, toutes les communautés ne veulent, plus personne ne veut de l'insécurité ni de la violence. Mais seulement, il y a quelques personnages qui pensent que ces populations sont leurs esclaves et que sans eux, leur communauté en général n'auront pas droit de vie. Alors ce sont ceux-là, chaque fois qu'ils reviennent ici, ils menacent, ils instrumentalisent et voilà.
Alors concrètement, votre administration militaire fait quoi
pour mettre fin à cette violence qui refait surface. Concrètement, nous avions déjà commencé avec les opérations. Nous avons, un, organisé la gouvernance dans les sites des déplacés. Nous avons organisé le CCO avec la MONUSCO, donc réduit le délai d'intervention. Et puis, trois, nous avons organisé des opérations. C'est ce qui a justement donné cette accalmie d'une année. Et donc, nous avons fait Spiderweb 1. Et maintenant, là, avec ce qui s'est passé, nous sommes dans Spiderweb 2, où nous sommes aujourd'hui toujours avec le contingent bengladais. Nous sommes en train de faire des opérations dans Djougou. Voilà.
Retournons ici à Bounia, où il y a eu un cas de meurtre encore hier, à Verso Kissadé. Selon la communauté IRA, ce cas de meurtre vient s'ajouter à 8 autres déjà registrés depuis le début de cette année. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour mettre fin à l'insécurité à Bounia?
En tout cas, là, je suis en train de l'apprendre. Mais vous savez, ce que nous avons comme information, hein, les cas des assassinats ici en Ituri, et même particulièrement même à Bounia, souvent, ce sont des gens qui se connaissent. Je crois que vous connaissez les histoires de Moussipela. Ce sont des amis ou des frères, ainsi de suite, qui étaient en train de poursuivre quelqu'un parce qu'il a eu, il a perçu un peu d'argent ici et là, où ils ont eu des problèmes particuliers. De la même façon qu'à Mungwalu, on a eu comme ça des cas de meurtre, toujours des amis qui ont vu que tel a perçu de l'argent et qui l'ont poursuivi après. Et donc, ici à Bounia, dès que nous avons remarqué qu'il y a eu, n'est-ce pas, des assassinats, nous avons renforcé les patrouilles. Donc, en plus de la police que nous avons mis, n'est-ce pas, la police militaire qui est là, et nous avions mis aussi la GR qui fait aussi des fois des patrouilles dans ces cités chaudes, là où on observe qu'il y a beaucoup de banditisme. Et vous le savez, depuis, nous n'avons presque pas de problème. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mort aujourd'hui, hier, là. Dans quelle ville du monde où il n'y a pas de mort? Je ne dis pas que je suis content quand il y a des morts, mais prenez Bounia aujourd'hui et prenez toutes les villes du monde, toutes les villes même de la RDC, comparer et voyez où est-ce que nous sommes en cas de, au niveau de la sécurité. En tout cas, je suis sûr que nous sommes parmi les premières villes qui sont sécurisées aujourd'hui. Vous pouvez le vérifier.
Depuis ce matin, plusieurs activités ont été paralysées dans une partie de la ville de Bounia. Les manifestants en colère demandent à ce que vous, gouverneur des provinces, de garantir leur sécurité. Votre réponse à ces manifestants?
Mais, monsieur Kiza, vous connaissez très bien le niveau d'instrumentalisation et de manipulation. Vraiment, vous pensez qu'un mort doit amener à une ville morte? Soyons quand même sérieux, hein? Si vous voyez dans toutes les villes de la RDC, c'est où avez-vous appris parce que qu'on a tué quelqu'un et qu'il y a eu une ville morte? Où avez-vous appris ça, hein? Donc ici, c'est un milieu de manipulation, malheureusement aussi un milieu de criminels de grand chemin qui ne veulent pas changer et qui font croire malheureusement à leur population, à leur communauté, que bon, qu'ils ont rendu esclaves, que sans eux, bon voilà, ils ne pourront pas vivre.
Lieutenant général Johnny Luboyankachama, merci.
Merci à vous aussi.
Le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyankachama, était interrogé à Bounia par Martial Kizabiamungu. Et c'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Noëlla Luzituka Bambi, mis en onde par Jean-Noël Mokondo Yogo. Grâce à Mzati Massan, c'était la présentation. Merci d'avoir écouté ce radio-journal que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net.